Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le jeune Alexandre Dumas avait 13 ans lorsque Napoléon tomba. Il vit les Cosaques traverser Villers-Cotterêts à la poursuite de la Grande Armée. Plus tard, il vit Louis XVIII revenir de Gand. Quelques années après, il avait alors 27 ans. Comment le même Alexandre Dumas, en une seule soirée, alors qu'il était encore peu de temps avant sans situation, sans protection, sans diplôme, sans argent et même sans instruction solide, comment ce jeune homme de 27 ans allait-il se transformer en homme connu, presque illustre ? Nous allons l'apprendre grâce à André Mauroy. Grande conférence donnée dans le cadre de l'Université des Annales, première diffusion sur la chaîne nationale le 26 septembre 1955, La vie de Dumas père, la jeunesse d'Alexandre Dumas, par André Mauroy.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'imaginer, vers la fin du XVIIIe siècle, la petite ville de Villers-Cotterêts, qui se trouve, comme vous le savez, au nord de Paris, sur la route de Soissons et de Laon. Il y avait là, il y a encore, un château Renaissance fort beau, jadis royal, qui avait été donné par Louis XIII à son frère avec le duché de Valois, et qui était resté un apanage de la famille d'Orléans. Louis XIV y était venu faire sa cour à Henriette la mal-aimée, sa belle-sœur. Au temps du régent, le château était devenu un lieu d'orgie, ce qui n'avait pas été sans choquer et intéresser la petite ville. Celle-ci prospérait, étant le siège d'une véritable cour. Les baillis, les greffiers en chef et autres officiers de la maison d'Orléans s'y faisaient construire des hôtels fort gracieux. Le grand nombre des visiteurs permettait à plus de 30 auberges et hôtelleries de faire leurs affaires, et l'une de ces hôtelleries, à l'enseigne de l'Écu, appartenait à Claude Labouret, ancien maître d'hôtel de Son Altesse Royale, le duc d'Orléans. Ce titre faisait de Labouret un personnage, et quand éclata la Révolution, il devint commandant local de la garde nationale. Villers-Cotterêts, ville paisible, fut alarmée après la prise de la Bastille par des bruits de jacquerie, de pillage, et sur la demande des notables, en août 1789, le régiment des dragons de la Reine, cantonné à Soissons, c'est-à-dire à côté, détacha 20 dragons et un officier pour veiller sur les moissons. Toute la ville vint sur la place du château admirer les cavaliers qui avaient grand air. L'un d'eux surtout attirait les regards, c'était un superbe mulâtre, au teint de bronze, dont la vigueur prenait par la finesse des attaches un je ne sais quoi d'aristocratique. Quand la population se partagea les soldats à loger, Marie-Louise Élisabeth Labouret, fille de l'hôtelier, demanda à son père qui, comme commandant de la garde nationale, avait le droit de choisir, de réclamer le beau mulâtre. Celui-ci se nommait Alexandre Dumas, et fut vite adoré de ses hôtes car il était aussi bon que vigoureux. Ses camarades racontèrent qu'il était le fils d'un marquis et qu'il se nommait réellement Dumas David de la Pailleterie. C'était vrai. Son père, ancien colonel de noble famille normande et marquis par titre de courtoisie, était parti en 1760 pour Saint-Domingue et y avait eu d'une esclave noire ce fils qu'il avait reconnu. Le jeune cavalier était instruit, bien élevé. Il s'était engagé dans les dragons quand son père, à 78 ans, avait épousé sa femme de charge. Une idylle s'ébaucha très vite entre le dragon et la demoiselle Labouret. L'hôtelier aurait été favorable à un mariage immédiat, mais le prétendant disait qu'il voulait d'abord avoir un grade. Ça ne tarda guère. Il était célèbre dans le régiment pour ses prouesses herculéennes. En 3 ans de guerre, il devint brigadier, sous-lieutenant, lieutenant, et quand il reparut à Villers-Cotterêts 3 ans plus tard, en 1792, pour y épouser sa fiancée, il était déjà lieutenant-colonel. Les époux furent tout de suite séparés, car Dumas repartit pour les guerres. En 93, il fut fait général de brigade, 6 semaines plus tard, général de division, et bientôt, à 32 ans, général de corps d'armée. Les révolutions donnent vraiment sa chance à la jeunesse. Le 5 Thermidor, en 10, c'est-à-dire le 24 juillet 1802, un fils lui était né et avait été déclaré sous le nom d'Alexandre Dumas. Le général avait déjà une fille de 9 ans, Alexandrine Aimée, conçue au temps des noces, Mais il s'attacha avec une particulière passion à ce beau petit garçon au teint blanc, aux yeux bleus, dont le quart de sang noir se manifestait seulement par des cheveux crépus. L'enfant, lui, adorait ce père si bon. Il admirait cette force merveilleuse, ce bel uniforme brodé. Il était trop jeune pour voir que le géant dépérissait. Le général essaya une fois encore de monter à cheval dans la forêt de Villers-Cotterêts, mais la douleur vainquit le vainqueur. Au retour de cette dernière chevauchée, il dut se mettre au lit. Il eut un moment de désespoir. « Ah !» s'écria-t-il, « faut-il qu'un général, qui à 35 ans avait commandé en chef 3 armées, meure à 40 dans son lit comme un large ? Ah, mon Dieu, que vous ai-je donc fait pour me condamner si jeune à quitter ma femme et mes enfants ?» Il vit un prêtre, se confessa, puis s'étant retourné vers sa femme, il expira dans ses bras à 11h du soir, le 26 février 1806. Le général ne laissait aucune fortune. Il fut impossible d'obtenir pour le jeune Alexandre une bourse dans un lycée ou dans une école militaire. Que faire ? Les grands-parents labouraient, recueillir leurs filles et leurs petits-enfants. Ils n'étaient pas riches, eux non plus, car tous les hôteliers à Villers-Cotterêts avaient été ruinés par la chute de la maison d'Orléans. Labouret avait vendu son hôtel, mais il avait une petite maison, on élargit le foyer et l'on vécut pauvrement et affectueusement. L'enfant était intelligent, peu travailleur. Sa mère et sa sœur lui apprirent à lire et à écrire. En arithmétique, il ne put jamais aller plus loin que la multiplication. En revanche, il eut vite une écriture superbe, toute ornée de fioritures. Un graphologue y aurait décelé de la vanité, et en effet, le garçon avait tendance à se vanter. Dès qu'il eut lu la Bible, Buffon et un traité de mythologie, il crut tout savoir et intervint avec un aplomb extraordinaire d'un air grave et doctoral dans la conversation des adultes, ce qui lui valut, à sa grande surprise, plus de coups de pied dans le derrière que de louanges. Sa mère, anxieuse de son avenir, essaya de lui faire donner des leçons de musique, mais il avait la voix la plus fausse du monde. En revanche, il apprit à danser, à faire de l'escrime, et un peu plus tard, à tirer, le tout fort bien. À 10 ans, il montrait un grand enthousiasme pour les exercices du corps, et il ne rêvait que sabre, épée, pistolet, fusil. Le vrai centre de sa vie, ce n'était pas sa famille, c'était la forêt. Celle de Villers-Cotterêts est belle, immense. Tous les garnements de la petite ville y allaient chasser, tendre des collets, jouer aux sauvages. Les braconniers étaient leurs amis. Dumas n'avait jamais lu Fenimore Cooper, mais il connaissait 1000 ruses d'Indiens. Quand il eut 10 ans, un de ses cousins, l'abbé Conseil, mourut en lui laissant une bourse au séminaire s'il acceptait d'entrer dans les ordres. Sa pauvre mère, qui ne savait vraiment que faire de lui, vit là un espoir, le supplia d'essayer, et lui donna 12 sous pour s'acheter son encrier de séminariste. Avec ses 12 sous, il acheta du pain, du saucisson, de quoi vivre 3 jours à la chasse aux oiseaux. Il alla coucher 3 nuits en forêt et il rentra le 4e jour. Les enfants prodigues sont toujours les mieux reçus. Sa mère l'embrassa, promit qu'il ne serait plus question du séminaire et l'envoya au collège de l'abbé Grégoire à Villers-Cotterêts. Cet abbé était un saint homme et un brave homme. Il comprit vite que le jeune Dumas avait du cœur, mais que ses bons sentiments étaient gâtés par un orgueil monstrueux. L'enfant n'apprit pas grand-chose, un peu de latin, un peu de grammaire, et il perfectionna encore son écriture en y mêlant des paraphes, des chœurs et des rosaces. C'était superbe et hideux. Quant aux prières, comme pour les opérations d'arithmétique, il n'en sut jamais que 3, le pater, l'ave et le credo. Par goût, c'était un enfant de la forêt, indiscipliné, sauvage, sensible à tous ces bruits de nature qui s'éveillent dans les bois. Dès que tombe la nuit, les gardes forestiers étaient ses dieux. Vers 14 ou 15 ans, les jeunes garçons découvrent la vie de société et le besoin de plaire adoucit alors les mœurs des plus réfractaires. La générale Dumas, ayant obtenu un bureau de tabac, avait loué pour y exercer ce commerce la boutique d'un chaudronnier nommé Lafarge. Le fils de cet homme vint en visite chez son père. Auguste Lafarge, le fils, était un beau jeune homme blond, maître clerc chez un notaire de Paris. Il portait un carrick à 36 collets, une chaîne de montre à breloques, un pantalon collant, des bottes à la hussarde. Le petit Dumas fut ébloui. Il fit au maître clerc des avances, bien accueilli. Lafarge prit plaisir à entretenir ce gamin intelligent de Paris, du monde littéraire, des théâtres, et lui montra des épigrammes en vers qu'il avait écrites lui-même. Le petit Dumas entrevit là un type de gloire, une manière de faire parler de soi qu'il n'avait pas jusqu'alors soupçonné. Il supplia son maître, l'abbé Grégoire, de lui apprendre à faire des vers français. « Oh, je ne demande pas mieux, dit l'abbé, mais au bout de 8 jours, tu seras fatigué de cela comme du reste. » L'abbé avait dit vrai, au bout de 8 jours, Alexandre en eut assez, Corneille et Racine l'ennuyaient à périr. Le fils du général Dumas, comme toute sa génération, avait entendu trop de récits étonnants pour se contenter d'analyses, de sentiments. Il lui fallait de l'action, fut-elle un peu folle. Autour de lui, la France vivait la fin d'une épopée. Il avait 13 ans quand Napoléon tomba. Il vit les Cosaques traverser Villers-Cotterêts à la poursuite de la Grande Armée. Il vit le vieux roi Podagre, Louis XVIII, revenir de Gand dans les fourgons de l'envahisseur. Le changement de régime posait un problème. Ne devrait-il pas, suggéra sa mère, reprendre le nom auquel il avait droit, David de la Paillerie, un titre sous la Restauration ouvrirait bien des portes. « Non, je m'appelle Dumas, dit fièrement le jeune Alexandre, et pas autrement. Qu'aurait dit mon père si je l'avais renié pour m'appeler comme un grand-père que je n'ai même pas connu ?» Le visage de sa mère rayonna. « C'est bien ton avis, dit-elle. C'est le tien aussi, n'est-ce pas, mère ? Hélas, oui, c'est le mien. Mais qu'allons-nous devenir ?» Il était en effet temps de trouver un état. Madame Dumas alla chez le notaire de Villers-Cotterêts, maître Ménesson, pour lui demander de prendre Alexandre comme troisième clerc. Le jeune sauvage regrettait de perdre sa belle indépendance, mais il se souvenait du brillant maître clerc aux 36 collets et aux breloques. Si le notariat pouvait assurer un bel avenir, des rentes et du temps libre pour chasser, eh bien, va pour le notariat. De 9h à 4h, il copiait des actes à l'étude, puis il dînait avec sa mère, et vers 8h l'été, 6h l'hiver, la jeunesse se retrouvait, tantôt dans la prairie, tantôt chez l'une des jeunes filles. Des mains se tendaient, des couples se formaient, des lèvres s'offraient. Le dimanche, on allait en bande aux fêtes des villages voisins. Et ce fut dans l'une de ces fêtes qu'Alexandre rencontra un jeune homme qui devait avoir sur sa vie une immense influence. Adolphe de Leuven, curieux garçon au maigre visage, aux cheveux en brosse, avait l'air d'un étudiant allemand. En fait, il était suédois, fils d'un célèbre comte de Leuven, qui avait, en 1792, préparé l'assassinat dans un bal du roi Gustave III de Suède. Le père, condamné à l'exil perpétuel, était venu en France. Le fils, naturalisé français, avait un ardent désir d'écrire. Il vivait à Paris, dans le monde des lettres, dans les coulisses des théâtres. Il émerveilla Dumas par ses récits sur les actrices. Et pourquoi, se dit le jeune Dumas, n'écrirais-je pas aussi pour le théâtre ? Alexandre fut bouleversé, et comme il n'avait jamais douté de rien, et surtout pas de lui-même, il décida tout de bon qu'il serait auteur dramatique. Un matin à 5h, la diligence débarqua le jeune Dumas rue du Boulois numéro 9, au cœur de Paris. Il avait 20 ans, peu d'instruction, aucune expérience de la vie, mais de l'espérance à en revendre. Il alla se loger à l'hôtel des Grands Augustins, où on le reconnut comme le garçon aux lièvres, aux perdrix et aux cailles. Il dormit 4 heures, puis courut chez Adolphe de Leuven pour lui demander les adresses du maréchal Jourdan, du général Sébastiani et du duc de Bellune. Leuven, un peu éberlué, consulta l'almanach des 25 000 adresses, donna le renseignement, mais prédit l'échec de ses démarches. Il avait raison. Si deux des généraux reçurent le solliciteur, l'un des deux parut douter de son identité, l'autre le mit à la porte. Quant au ministre de la guerre, il n'accorda même pas l'audience demandée. Restait l'opposition, c'est-à-dire le général Foy. Là, l'accueil fut tout différent. « Est-ce que vous êtes le fils du général Dumas qui commandait l'armée des Alpes ?»« Oui, mon général. » »« C'était un brave. Puis-je vous être bon à quelque chose ? J'en serais heureux. » Alexandre exposa ses besoins, il cherchait une place, et c'était urgent. « Bien, dit le général, voyons, que savez-vous ? Un peu de mathématiques, quelques notions d'algèbre, de géométrie, de physique ? Non, mon général. » Ah. Vous avez fait votre droit. Non, mon général. Diable. Voyons, je pourrais vous mettre chez le banquier Lafitte, vous savez, la comptabilité. Pas le moins du monde, mon général. Le général était de plus en plus embarrassé. Dumas dit qu'il savait que son éducation avait été négligée, mais qu'il s'engageait à la refaire. Très bien, dit le général, mais en attendant, mon ami, avez-vous de quoi vivre ? Je n'ai pas un franc. Diable, diable, eh bien, donnez-moi votre adresse, je vais réfléchir. Le jeune homme écrivit son adresse. Le général le regarda faire et frappa dans ses mains. « Mais nous sommes sauvés, dit-il, vous avez une belle écriture. » C'était en effet tout ce qu'il avait. hors le génie, qui ne se voyait pas. Mais le général sembla penser que cela suffisait. « Eh bien, dit-il, je dîne aujourd'hui chez le duc d'Orléans, je lui parlerai de vous pour son secrétariat. » Le duc d'Orléans, futur roi Louis-Philippe, était en effet en meilleurs termes avec les députés de l'opposition qu'avec le gouvernement de son cousin Charles X. Le lendemain, quand Dumas, qui commençait à être inquiet, se présenta chez le général Foy, celui-ci, tout souriant, lui dit « Votre affaire est faite, mon ami. Vous entrez au secrétariat du duc d'Orléans aux appointements de 1200 francs par an. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera à vous de bien travailler. » Pas grand-chose. Aux yeux du petit Dumas, c'était la fortune. Il écrivit aussitôt à sa mère de vendre ce qui lui restait de meubles et de venir le rejoindre à Paris. Elle eut la sagesse de demander un délai. En attendant, elle lui envoya des meubles et il loua une petite chambre au numéro 1, place des Italiens. C'est l'actuelle place Boieldieu. Son bureau de travail était au Palais Royal, quartier général de la famille d'Orléans. Il y avait là le secrétariat particulier du prince et l'administration de ses domaines privés qui était immense, tout un état-major d'employés. Dès que Dumas se présenta, son chef, M. Houdard, le reçut affablement et l'installa dans un bureau. C'était là que chaque jour, il devait désormais travailler de 10h du matin à 5h du soir et revenir le soir de 7h à 10h. Où trouverait-il le temps de devenir un grand homme ? Il avait promis au général Foy de continuer ses études et il y fut aidé par son sous-chef, Lassagne, qui avait une remarquable culture littéraire. Lassagne se montra étonné à la fois par l'ignorance du jeune homme et par son intelligence. Il lui prêta des classiques français et étrangers, des mémoires, des chroniques. Dumas les dévora avec toute la fraîcheur d'un esprit neuf. C'est une force que d'avoir eu une éducation négligée. Quand on lit trop tôt les maîtres, on ne les comprend pas et on s'en dégoûte. Quand on vient à eux à 20 ans, au moment où déjà on commence à éprouver les sentiments qu'ils décrivent, on s'y attache. Tel fut le cas d'Alexandre Dumas. Son ami Leven ne poussait pas Dumas vers le théâtre sérieux. Ils composèrent ensemble un vaudeville à couplets en un acte, la chasse et l'amour, tout à fait vulgaire et médiocre, à part quelques caricatures assez drôles des chasseurs de Villers-Cotterêts, mais qui fut représenté à l'ambigu et rapporta 300 francs à Dumas, 3 mois de ses appointements. C'était un encouragement et les 15 louis d'or arrivaient à point, car le jeune auteur, ayant déjà oublié ses amours provinciales, avait entrepris de séduire une tendre couturière qui avouait 8 ans de plus que lui. Catherine Labbé était, place des Italiens, sa voisine de palier. Elle avait créé là un petit atelier de quelques ouvrières qu'elle dirigeait avec compétence. Blonde, un peu grasse, de peau très blanche, pleine de cœur et de sérieux, elle venait de Rouen, où elle prétendait avoir épousé puis quitté un mari à demi fou. En réalité, le mariage était fictif et le fou imaginaire. Le dimanche, Alexandre Dumas emmenait sa voisine dans les bois de Meudon. On s'arrêta d'abord sur l'herbe, puis dans une grotte obscure. Qu'y a-t-il de plus dangereux pour la vertu des couturières que les grottes ? Ce jeune Carteron aux yeux bleus était fougueux, persuasif, effrayamment viril et singulièrement beau. Bientôt, Catherine sut qu'elle attendait un enfant de lui. Elle engagea son amant, par économie, à venir partager son logement, et le 27 juillet 1824, leur naquit un gros garçon qui fut baptisé Alexandre, troisième du nom. Voici donc Alexandre II, père de famille à 22 ans, plein d'estime pour la mère de son fils, mais nullement disposé à la prendre pour compagne de vie, car il a bien d'autres rêves. Ses lectures l'ont amené à imaginer de grandes dames se jetant à sa tête, de belles actrices folles de lui, des soupers libertins. La petite couturière a toutes les qualités, elle a du bon sens, le goût du travail et même du charme. Mais elle est sans culture ni relation et Dumas entend se garder disponible pour des aventures enivrantes. Ce fut en écoutant les tragédies de Shakespeare qu'il comprit ce qu'il souhaitait faire lui-même, peindre librement de grandes actions et émouvoir un public par des coups de théâtre dramatiques. Mais quel sujet choisir ? Les thèmes de l'Antiquité avaient été trop annexés par les classiques. L'histoire contemporaine, elle était trop brûlante. Le hasard fit qu'étant allé voir le salon annuel de peinture et de sculpture, il fut attiré par un bas-relief qui représentait l'assassinat d'un certain Monaldeschi, tué par ordre de la reine Christine de Suède en 1657 à Fontainebleau, dans la galerie des Serres. Monaldeschi, Christine, qui étaient ces gens-là? Le jeune Dumas ne savait absolument rien de cette sombre aventure. Il emprunta une biographie universelle pour lire l'article Monaldeschi et l'article Christine. Là, il apprit que Monaldeschi, amant de la reine de Suède et jaloux de la faveur naissante d'un autre Italien, Santinelli, avait écrit des lettres injurieuses, imprudentes, et qu'il avait été mis à mort par son rival au palais de Fontainebleau sur injonction de la reine courroucée. Il y avait là la matière d'un drame, et sans aucun doute, l'ami suédois Adolphe de Leuven pouvait compléter la documentation. Bref, Dumas résolut d'écrire une pièce sur ce sujet dont la veille il ignorait tout, et bientôt Christine, drame en 5 actes et en vers, fut achevée. Les vers étaient loin de valoir ceux des jeunes poètes contemporains de l'auteur. Victor Hugo, né comme lui en 1802, avait une force, un langage, une virtuosité qui dépassait de loin la verve facile de Dumas. Mais il restait que celui-ci était un homme de théâtre, qu'il savait, comme par instinct, construire et émouvoir. La pièce ne fut pas jouée au Théâtre Français. Le hasard, son meilleur ami, lui envoya providentiellement un autre sujet. Étant entré dans le bureau d'un collègue, il trouva ouvert sur la table un gros ouvrage de l'historien Anquetil, où il lut une anecdote sur le règne d'Henri III. Le duc de Guise, Henri le Balafré, sachant que sa femme, Catherine de Clèves, le trompait avec un des mignons du roi, comte de Saint-Mégrin, et d'ailleurs fort indifférent à cette infidélité, avait néanmoins décidé de donner une leçon à la duchesse de Guise. Un jour à l'aube, il était entré dans sa chambre, tenant d'une main un poignard, de l'autre, ce qui semblait une potion, lui avait fait de sévères reproches, et puis lui avait dit « Choisissez, madame, votre genre de mort, poignard ou poison. » Elle avait pleuré, supplié, demandé grâce. « Non, non, madame, il faut choisir. » Elle avait bu le poison, s'était mise en prière, et avait attendu la mort en demandant pardon à Dieu. Au bout d'une heure, Guise l'avait rassurée, le poison n'était qu'un excellent consommé. Tout de même, la leçon avait été cruelle. « Quelle scène merveilleuse !» pensa le jeune Dumas. Je voudrais l'écrire. Mais qui donc était ce duc de Guise? Et qui était Saint-Mégrin? Comme il faisait toujours, il courut à sa fidèle et savante amie la biographie universelle, qui lui donna quelques précisions et le renvoya aux mémoires de l'Étoile. L'Étoile, qui était l'Étoile, la précieuse biographie universelle lui enseigna que Pierre Thézan de l'Étoile avait été l'illustre chroniqueur des règnes de Henri III et de Henri IV. Dumas emprunta l'ouvrage qui l'enchanta. Il apprit là que Saint-Mégrin, premier gentilhomme de la chambre du roi, avait été massacré dans la rue en 1578 sur l'ordre d'Henri de Guise pour lui apprendre à faire l'amour aux princesses. Belle scène, un peu banale, mais un peu plus loin, Dumas trouva dans le même chroniqueur un admirable ressort dramatique pour corser l'aventure. Il s'agissait, il est vrai, d'un autre seigneur, Louis de Bussy d'Amboise. Mais qu'importe, Dumas voulait faire un drame historique et non de l'histoire. Donc ce jeune Bussy, amant de Diane de Chambes, comtesse de Montsoreau, avait reçu d'elle un billet l'invitant à la rejoindre une certaine nuit au château conjugal pendant une absence de son époux. Or, elle lui avait fixé ce rendez-vous par ordre du dit époux jaloux et elle avait consenti, pour sauver sa propre vie, à laisser surprendre en flagrant délit d'adultère Charles de Montsoreau. Bussy avait été tué à minuit dans la chambre de sa maîtresse par le mari, qui s'était fait accompagner de quelques amis. Avec le paragraphe sur Saint-Mégrin et celui sur Bussy d'Amboise, avec des souvenirs de Schiller et de Walter Scott, Dumas sentit qu'il tenait son second drame. 11 février 1829. La veille, il se présenta au Palais Royal et demanda une audience au duc d'Orléans. « Monsieur Dumas, dit le duc, quel bon vent vous amène. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. On joue demain Henri III et sa cour. » Je vous demande d'assister à ma première représentation. Votre Altesse Royale m'a condamné un peu vite. Demain, le procès va se juger devant le public. Assistez au jugement, Monseigneur. Le duc dit qu'il serait venu volontiers, mais qu'il avait le lendemain 20 ou 30 princes et princesses à dîner. Et bien que Monseigneur avance l'heure de son dîner, je retarderai celle de ma pièce et les augustes convives auront vu un spectacle curieux. Ma foi, c'est une idée, dit le duc d'Orléans. Allez dire à Taylor que je retiens toute la galerie. Le lendemain tant attendu arriva enfin. La salle offrait un magnifique coup d'œil. Prince chamarré de décoration, princesse ruisselante de diamants, horizontale tout charme dehors. Grand succès. La brutalité du troisième acte. Guise, jaloux, contraignant par la force sa femme à écrire la lettre fatale à Saint-Mégrin, non seulement ne choqua personne, mais fut acclamé. À l'entracte, Dumas courut embrasser sa mère malade. Au quatrième acte, quand il revint, c'était du délire. Quand Firmin nomma l'auteur, toute la salle, y compris le duc d'Orléans, se leva. Le lendemain matin, Dumas reçut une lettre du baron de Broval, qu'il avait si durement congédié. « Je ne veux pas me coucher, mon bon jeune ami, sans vous dire combien nous sommes tous heureux de votre beau succès. Nos camarades et moi jouissons de ce triomphe. » On est toujours étonné dans la victoire par le nombre de ceux qui se découvrent soudain vos amis. Ainsi, à 27 ans, le jeune homme qui, si peu de temps auparavant, était arrivé de Villers-Cotterêts sans situation, sans protection, sans diplôme, sans argent et même sans instruction solide, se transformer en homme connu, presque illustre, admis comme un égal par le petit groupe brillant qui allait rénover en France la poésie et le théâtre. Quelle étonnante chaîne de hasard il avait fallu pour le conduire à ce foudroyant succès. La rencontre de Leven, qu'il avait dirigé vers le théâtre, la rencontre de Nodier, un soir au Vampire, un bas-relief entrevu dans une exposition, un livre ouvert par le destin à la bonne page. Mais à la vérité, le hasard ne favorise que ceux qui en sont dignes. Tout homme a chaque jour 10 chances offertes qui pourraient transformer sa vie. Le succès est à ceux qui savent les saisir. Au service d'une ambition immense, le jeune Alexandre Dumas mettait une imagination prodigieuse, un sens vif du drame, un goût tout français du panache, la passion de l'héroïsme, une étonnante puissance de travail, une culture décousue mais passionnée. Il avait réussi. Non parce que les circonstances l'avaient aidé, mais parce qu'il était apte à tirer parti de toutes circonstances.
C'était les grandes conférences, la jeunesse d'Alexandre Dumas, donnée dans le cadre de l'Université des Annales, diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 26 septembre 1955. Vous pourrez réécouter cette conférence en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».